Bonsoir, chers auditeurs, auditrices d'Aligre FM. Nous saluons avec nous à la régie Armand Gury et Bruno Mondefouya. Vous êtes dans l'émission Chacun son tempo et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Belin. On le connaît évidemment pour sa plume si singulière et pour sa voix qui nous accompagne depuis près de 20 ans déjà et qu'on entend se patiner, s'approfondir au fil du temps, des albums. Bertrand Belin, c'est un poète, un amoureux de la langue française, un collectionneur des mots qu'il s'amuse à faire sonner dans les chansons qu'il fabrique, dans ses romans, mais aussi sur scène ou sur grand écran quand il porte ceux des autres. Il est avec nous ce soir à l'occasion de la sortie de son nouveau disque What, dans lequel il dévoile 12 titres sublimement écrits que vous pourrez découvrir sur scène dès janvier prochain. On écoute.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Bonsoir Bertrand Belin.
Bonsoir.
Comment allez-vous? Comment est-ce qu'on se sent à la sortie d'un nouvel album? Est-ce que c'est toujours la même sensation, la même excitation, la même pression?
Et j'aimerais bien le savoir. Je dis ça parce que aux personnes qui me demandent ça, je dis toujours bah, tout va bien, je vois pas, non, ça m'a pas du tout fébrilisé ou rendu fébrile, je sais pas si ça existe, fébrilisé aussi, ça existe. Mais en réalité, de temps en temps, je m'aperçois que ouais, c'est des moments où mon inquiétude, si elle existe, elle se manifeste dans un peu d'impatience ou de. Voilà, j'ai envie que ce moment passe, en fait, que d'être sur la route, d'être en tournée, de d'être après cette nécessaire, comment dire, ce pétillement-là qu'il y a autour de la sortie des disques, avec de l'enthousiasme, mais aussi des inquiétudes, enfin. Voilà. Donc, je fais semblant que d'y être insensible, mais en réalité, j'y suis sensible, naturellement. Et c'est surtout avec l'impatience que ça se manifeste, comme je le disais. J'ai hâte de chanter ces chansons en tournée, parce que c'est avant tout pour ça que je les ai composées. Quoi.
Vous les avez écrites en pensant à la scène ?
Non, pas en pensant à la scène, mais j'ai toujours pensé la musique comme étant une chose qui se fait devant le public. C'est comme ça que j'ai commencé, que beaucoup de gens ont commencé dans ma génération et toutes celles qui ont précédé, par faire des concerts, par écrire des chansons, aller dans le premier bistrot qui veut bien de nous pour aller chanter. Et puis l'idée de faire un disque constituait un horizon auquel on n'ose même pas penser. Moi, j'ai commencé dans les années 80, 85, à faire 83, 85, à faire des concerts. Faire un disque, ça ne me paraissait vraiment pas du tout approprié à ma vie, quoi. Et puis, je l'ai fait tardivement, j'avais 35 ans quand même. Donc, entre 15 et 35 ans, j'ai fait énormément de concerts, de tournées, sans jamais faire le moindre disque. Donc, je suis resté dans cet état d'esprit, en fait, un peu.
Et comment il s'est construit, le premier disque ?
Bah, comme souvent, les premiers albums, quel que soit l'âge qu'on a, c'est un peu moins vrai pour les gens qui sont vraiment très jeunes, qui font des disques entre 16 et 20 ans, et n'ont pas accumulé forcément beaucoup, beaucoup de chansons ni d'expériences dans le domaine musical. Mais moi, à 35 ans, j'avais accumulé pas mal d'expériences et de chansons que j'avais commencé à écrire à l'adolescence. Donc le premier disque, bah, c'est un genre de somme, un peu, hein, une espèce de panier qu'on a rempli au cours des années, et puis dans lequel on va venir chercher parmi ce qui s'y trouve, bah, un ensemble de chansons qui ont l'air de dessiner quelque chose, hein, une cohérence ensemble. Puis on ajoute à ça deux, trois toutes fraîches qui viennent parfaire l'énergie, l'excitation. Et puis le premier disque, il est fabriqué de ça, quoi. Donc dans mon premier disque, il y a des chansons qui, je dirais, sont un peu de tonneaux divers, en fait, hein, comme on dirait de millésimes différents. Et il y a des pistes qui s'ouvrent dans ce premier disque que je croyais être le seul que j'aurais jamais enregistré. Hein. J'ai fait ce disque, j'étais content. Pour moi, ça constituait une arrivée, pas un début. Hein. C'était un point d'arrivée, quoi. Mais seulement, j'ai jamais été tellement apte à bien comprendre ce qui m'arrivait. Donc, en réalité, il s'agissait d'un début.
Est-ce que vous avez d'abord été guitariste beaucoup pour d'autres ?
Je le suis toujours. Oui, j'ai continué d'accompagner beaucoup de gens à la guitare, de jouer sur des albums ici et là. Mais c'est vrai que j'écrivais des chansons, je faisais des concerts dans une certaine, j'irais pas jusqu'à dire indifférence, mais en tout cas discrétion, quoi. Et puis j'ai accompagné pas mal de gens, oui, sur scène, oui, parce que il me semblait que la guitare, j'avais la chance de l'avoir commencé assez jeune et d'être assez compétent sur cet instrument, en tout cas dans le domaine du rock, de la pop musique, de la chanson, je savais m'en sortir, donc j'ai été comment dire engagé assez souvent entre mes 20 et 35 ans. Ouais.
Est-ce que vous vous souvenez de la toute première chanson que vous avez écrite?
Oui, je m'en rappelle, ouais. Ça s'appelait Suicide Forcé. On continue d'en parler ?
Pourquoi pas ?
C'était une chanson qui avait à voir avec quelque chose qui m'a toujours occupé, c'est-à-dire l'amour. Bien que j'écris pas réellement beaucoup de chansons d'amour, mais celle-ci en était pas réellement une. Enfin, elle en était une, mais pas abordée par la face sombre un peu de l'affaire. C'est-à-dire, il s'agissait de deux personnes âgées sur un banc, deux hommes dont un dessinait avec sa canne dans le sable, le gravier du parc, la silhouette ou le visage de celle qui avait été son épouse et qui n'était plus là. Il y avait une sorte de désespérance, de sentiment d'injustice, sentiment d'une impossibilité de poursuivre sa vie sans cet amour. Donc, c'est quelque chose qui m'occupe toujours, ça. J'ai très peur de ça.
Je vous ai demandé de m'envoyer un titre qui vous rappelle votre enfance ou votre adolescence. Et vous m'avez envoyé Salomé de Jean-Patrick Capdevielle.
Oui,
je prononce bien.
Ah, bah oui, Capdevielle, oui.
C'est ça, on écoute.
Quand j'ai vu traîner le long de mon avenue, malgré ma canne blanche, je l'ai vite reconnu. Avec ses yeux peints couleur mélodrame, on fait tout ce qu'on peut du temps et de son âme. J'attendais la nuit à l'ombre de l'usine, je regardais ma vie comme un vieux magazine. Le vent était chaud, le ciel peint de rouge, elle marchait sur un bateau qui bouge. Elle est venue vers moi pour m'apprendre mon rôle, quand ma solitude était vraiment pas drôle. J'ai senti l'orage quand ma voix s'est cassée, mais déjà je dansais comme un clown sur la trace de Salomé. Il y avait dans son lit quelques cartes égyptiennes, elle m'a demandé de deviner la mienne. Elle jouait les sirènes, moi j'étais son fou, elle était ma reine. Avant de sortir, j'ai volé toutes ses cartes, j'en ferai des souvenirs pour ses amants qui partent. Elle semblait dormir, j'ai cru qu'elle rêvait, ma chance est fragile, je voulais pas l'user. Et sans lancer marche, j'ai pas fait le vacarme, mais j'ai vu ce fou se prendre au signal d'alarme.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Bertrand Belin. Quelles images vous reviennent quand vous réécoutez cette chanson ?
La pochette de l'album, c'était le visage de Jean-Patrick Capdevielle, peint avec les couleurs primaires, avec une technique assez, comment dire, fauve. Enfin, son visage prenait toute la pochette du vinyle. C'était un vinyle, bien sûr. Et puis derrière, il y avait une photo de lui en noir et blanc, certainement en studio, avec une Firebird, qui est un modèle de guitare, Gibson. Voilà, il avait vraiment une allure assez, ce qu'on imagine être iconique du rock, assez féline, assez... Voilà, assez provocante un peu, et j'aime beaucoup ce disque. C'est vraiment certainement un sommet de son art, de son écriture, hein, Jean-Patrick Capdevielle. J'aime vraiment beaucoup, puis je trouve, mais bon, c'est un chanteur de 55 ans qui vous le dit, mais je trouve que d'un point de vue de la production du disque, il tient encore bien la route quand on l'écoute aujourd'hui.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Je sais pas, 12 ans, 12, l'album doit dater de, je sais pas, 80, 80, 81, quelque chose comme ça. Donc je vais avoir 11 ans, 12 ans, je l'ai écouté, j'irai entre 11 et 13 ans. Et puis après, j'ai rencontré Tiefen, et ça, c'est un long tunnel pendant lequel j'ai écouté, enfin tunnel, un long sentier, pourquoi tunnel ? Et puis je suis revenu à Jean-Patrick Capdevielle il y a une dizaine d'années à un moment donné on se retourne un peu sur les choses qu'on a aimées, questionner un peu ce qui se passait dans nos têtes de jeunes mélomanes. Et alors il y a une part de ce souvenir d'intensité que j'éprouvais en écoutant cet album quand j'étais enfant qui est toujours là, qui fait que mon jugement ne peut pas être revu, hein. Mais quand j'écoute attentivement et que j'essaye de voir ce qu'il y a comme force en présence dans cet album, je trouve qu'il y en a énormément, elles sont toujours là, très vivaces pour moi, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête justement à cet âge-là ? Quel genre d'enfant ou d'adolescent vous étiez ?
Bon, j'étais certainement à la fois timide et quand même en capacité de m'entourer de camarades. Mmh. Hein, j'avais des camarades, mais disons que j'étais pas tellement dans la forfanterie, vous voyez, j'étais... Je sais pas, je pense que j'avais dans un genre de club d'enfants, comme si c'était un récit en bande dessinée, j'aurais la place de la personne ingénieuse. Et nuancé, quoi.
Vous étiez introverti, mais pas trop solitaire, quoi.
Non, introverti, je dirais pas ça, mais je tenais une certaine discrétion, quand même. Ouais.
Et vous avez écrit assez jeune, vous avez commencé à écrire?
Oui, à l'adolescence, vers, j'irais peut-être 15 ans, j'irais. Ouais.
Ça vous a tout de suite plu ou c'est venu à force de travail et,
Ah non, ça me plaisait autant, mais je ne savais pas ce que ça signifiait hein, réellement d'écrire. On était mis en mouvement par le désir d'imiter, hein, ce qui est toujours une chose qui accompagne les écrivains et les écrivaines quand même, parce que notre désir vient souvent de lecture ou de confrontation avec des choses existantes qui fonctionnent sur nous comme des stimulants. Donc il y a toute une époque où on commence par voir de quoi est fait la machine de l'écriture, et pour ça, regarder dans les textes des autres. Alors moi, ça venait de la chanson, parce que je lisais pas de livres quand j'étais adolescent, mais j'écoutais pas mal de chansons. Donc écrire, pour moi, ça voulait dire surtout écrire de la chanson, et puis je savais pas écrire des chansons vraiment, enfin, d'un point de vue de la mise en musique, mais par contre, écrire des paroles de chansons, à cette époque, je voyais pas la différence entre ce qu'on appelle communément la poésie et l'écriture de chansons, dont on sait qu'il s'engage entre les deux un rapport assez flou, très, très poreux, mais il existe aussi une vraie ligne de démarcation quand même. Ça, j'ai découvert ça plus tard dans la vie.
Et quelles étaient vos idoles, du coup, à ce moment-là?
Ben, comme je vous l'ai dit, hein, c'était Thiéphaine. Mais j'écoutais aussi, à 15 ans, j'écoutais aussi... C'est une chose très variée. Il y avait un groupe de rock post-punk rennais qui s'appelait Marquis de Sade, et que j'ai malheureusement pas connu à l'époque, parce qu'il s'agissait d'être là au bon moment, et moi j'étais un tout petit peu jeune, mais Philippe Pascal, qui était le chanteur de ce groupe, a ensuite eu un groupe qui s'appelait Marc Seberg. Et moi, c'est Marc Seberg que j'ai écouté vraiment à m'en casser les oreilles lorsque j'étais au lycée. J'adorais vraiment, vraiment. C'était très. Il y soufflait un vent tempétueux. La poésie était. Les mots étaient obscurs. Ça m'a toujours plu. Ça a une certaine obscurité, en tout cas, quant à la façon dont le sens se donne. Hein. Ça, j'ai toujours aimé ça. Il m'a fallu être adulte pour commencer à aimer d'autres genres de chansons. À une exception près, c'est que je ne rechignais pas devant le plaisir que j'avais à écouter Renaud aussi à cette époque. Mais c'était pour le texte et pas trop pour la musique. Mais j'admirais Renaud pour son écriture. Et la musique m'intéressait moins parce qu'il y avait tout ce vent de New Wave qui était là, qui soufflait aussi. Et j'étais invité à participer de cette communauté-là de jeunes, vous voyez, de jeunes amateurs de musique. Mais j'aimais Renaud et parce que voilà, ça faisait partie des en termes d'écriture, c'était remarquable quoi. Donc je le remarquais.
On écoute votre deuxième titre, La Béatitude.
Taille des costards, me donne des noms d'oiseaux. Sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler le sabre des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux.
un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour, mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience. C'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Bertrand Belin. Est-ce que vous avez un endroit particulier où vous aimez écrire, ou un poste d'observation, un café, un... Comment vous écrivez ?
Non, il n'y a pas d'endroit, je n'ai pas d'endroit de prédilection. Ce que je crois pouvoir dire, c'est que le désir, l'envie d'écrire, le besoin immédiat d'écrire, tiens, il faut que je trouve un bout de papier, ça m'arrive jamais dans la solitude. C'est quand je suis entouré à un concert, au théâtre, auquel je ne me rends pas suffisamment souvent, mais dans les transports en commun, quand je suis entouré, quand je suis plongé dans le monde, quoi, là, ça me vient. Après, quand je suis tout seul, je m'occupe d'écriture pour faire avancer, aller plus loin, préciser des choses. Mais le germe, il vient quand je suis entouré. Mais même écrire, j'aime bien écrire quand il y a quelqu'un pas loin.
Hein? Ça veut dire que vous avez toujours un petit calepin avec vous
Maintenant, avec nos téléphones...
Le téléphone aussi ?
Oui. Alors, j'ai parfois un petit... Ça m'arrive d'avoir un carnet de temps en temps, mais j'en ai plein les étagères, des carnets chez moi. Mais sur le téléphone aussi, je prends des notes quand même.
Hein. Donc, vous imposez pas de discipline particulière ? C'est
non,
vraiment... Et est-ce qu'il y a des choses que vous mettez dans vos livres, que vous ne pourriez pas mettre dans votre musique, et vice-versa?
Le livre lui-même. Le livre lui-même, parce qu'un livre, ça commence à être un livre à partir quand même d'un certain nombre de pages, on va dire. Et là, ça veut dire que c'est le médium qui convient à ce qu'on a exprimé, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour l'exprimer. Donc...
Oui, mais il y a peut-être des émotions que vous ne pouvez pas exprimer. Vous avez peut-être plus de pudeur dans un médium qu'un autre ?
Non, ça se passe pas comme ça. Je comprends la question. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu. C'est-à-dire que dire quelque chose d'impudique ou même de violent ou de problématique, même, mettons, dans une chanson, il faut avoir le temps de contextualiser ce qu'on dit. La parole, elle vit dans un... Elle vit dans un biotope, elle a un endroit d'où elle est projetée vers les autres consciences. Donc, si on veut que sa parole soit reçue comme on l'a écrite, il faut alors, à ce moment-là, donner un certain nombre d'indications, de façon à ce que ce soit bien compris. Et dans un livre, on a le temps de faire ces choses-là. Dans les chansons, à moins d'être, d'inventer des personnages fictifs, mais moi, j'ai jamais fait ça. Dans la chanson, je suis pas un personnage fictif. Je suis pas un autre que moi-même quand j'écris des chansons et quand je vais les chanter en tournée. Vous voyez, j'ai pas un personnage auquel je pourrais faire dire des choses impudiques derrière un masque. J'ai pas ce recours-là. Parfois, je l'ai regretté de pas avoir appris un pseudo ou avoir un genre de personnage qui m'aurait permis, comme dans un effet de théâtre, de reléguer à une personnalité non administrative. Un certain nombre de la paternité de certaines choses que j'aurais envie de dire, peut-être. Mais enfin, concernant les émotions, j'écris pas pour fabriquer des émotions. J'ai pas une émotion dans la tête en me disant, tiens, j'aimerais bien faire passer cette émotion. Comment je vais pouvoir faire passer cette émotion en écrivant? Moi, la chose écrite, l'écriture est première. J'écris. Et puis, il y a dans ce que j'ai écrit quelque chose ou rien qui trouvera un écho sous l'aspect d'une émotion chez les auditrices et les auditeurs. J'écris pas pour manipuler des émotions, quoi.
Non, mais pour vous libérer plutôt de certaines émotions.
Pas consciemment, en tout cas, non. Non. Je sais pas. C'est certain que parfois dans la vie, on traverse des moments où on a envie de se libérer de certaines émotions, mais pas toujours. On n'a parfois pas envie de se libérer de certaines émotions. J'ai l'impression que moi, c'est plus souvent ce cas-là, quand même. J'ai pas forcément envie de me séparer des émotions. Hein. Parfois même pas de la colère, hein. C'est sûr. Hein. De la peur, voilà, quelque chose avec quoi il est difficile de vivre. Ça, oui, on peut avoir envie de se séparer de ça, oui.
J'ai l'impression que votre voix a changé sur ce dernier album, qu'il y a quelque chose qui s'est relâché. Est-ce que vous le sentez c'est comme si j'avais l'impression de plus vous entendre, vous, que sur les albums précédents.
Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est difficile pour moi d'être à la fois jugé parti, hein, mais enfin libéré. Je sais pas. Je peux peut-être que si vous écoutez mes disques précédents à l'aune de ce que vous venez de dire, vous allez vous rendre compte que vous m'entendiez quand même sur les autres. C'est une longue, prise de contact aussi. Hein. C'est une longue prise de contact. Hein. Il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui. Vous en faites peut-être partie aussi. Hein. Donc, ça fait longtemps que je suis dans la cour de récré. Je commence à avoir des copains, quoi. Il faut se connaître, c'est tout, quoi. Alors, peut-être que c'est moi qui change, mais je pense que vous aussi, hein, vous changez. Vous voyez, je pense que chacun change, en fait. Que tout à coup, il y a un coup de projecteur. Il suffit d'une chanson qui vous touche, c'est le mot facile à employer, qui vous touche particulièrement pour que tout à coup, on ait établi un contact durable. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche avec moi pour les gens que j'aime, les musiciens, les musiciennes que j'écoute. On peut me faire écouter pendant 15 ans un truc, mais écoute, ça va te plaire. Mais si j'ai pas ce truc avec une chanson qui vient, et là je me dis, ah bah alors là, ouais, ça y est, j'ai compris, quoi. Je peux rentrer dedans là, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert en moi, ça s'est pas forcément ouvert en l'autre, en lui. Hein. C'est un rapport, on est dans un rapport. Mais il faudrait demander à un psychiatre ou un psychanalyste si j'ai enfin commencé à chanter au bout de mon 8e album.
En tout cas, pour votre album de chevet, vous m'avez envoyé Jim Kane de Bill Callaghan. On écoute.
Search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? started telling the story without knowing the end. Passing over and over me. Well, it seemed like a routine case at first, with the death of the shadow came a lightness of earth. Still dazzle, and I work myself until I'm frazzled. Turned to sand. I started running when things didn't pan out as planned. In case things go poorly, then I'm not returned.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Bertrand Belin. Je me demandais si l'anglais vous attirait, parce que j'ai vu pas mal de reprises que vous avez faites. J'ai vu un duo avec Eric Truffaz aussi. Vous avez déjà écrit peut-être en anglais ?
Non, jamais.
C'est pas du tout un...
Non, j'ai jamais eu l'intention de le faire. En serais-je capable ? La réponse est probablement plus près de non que de oui. Mais bon, je veux dire, depuis l'entre-deux-guerres, jusqu'à aujourd'hui, sous nos latitudes, on baigne dans une culture anglo-saxonne quand même très, 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 très répandue, une capacité de pénétration très puissante. Donc, depuis Trenet, passant par Boris Vian jusqu'à nous, la musique anglo-saxonne a toujours été là. Beaucoup de chanteurs et de chanteuses françaises, y compris aujourd'hui, y compris dans le champ du rap, du R&B, de l'hyper-pop, de tous les courants contemporains, les artistes qui sont écoutés, qui nous mettent le pied à trier, sont des anglophones. Donc, ça m'intéresse. Je trouve que c'est une très belle langue qui est très appropriée. On le sait, être vraiment appropriée au chant comme ça, non lyrique, enfin, si on veut, à la pop culture. C'est par là que ça vient. Mais ça donne des très belles choses. Mais ce que surtout ça témoigne d'une chose, c'est que le sens dans les chansons qu'on aime n'est pas la première chose, vous voyez. C'est pas toujours le sens qu'on va chercher dans une chanson qu'on aime. On va entendre une voix, une intonation, quelque chose qui s'exprime à travers la voix, qui n'est pas le sens donné par les mots, mais par une position au monde, une attitude, un ton, une tonalité, une jeunesse, au contraire quelque chose qui semble patiner ancien. Ça va nous toucher. Quand on écoute une chanson, quelle que soit la langue, que ce soit quelque langue d'Indonésie ou d'Inde ou la langue arabe, on est touché par une voix avant même de comprendre ce qui nous est dit, quoi. Moi, si j'ai reçu une influence de l'anglais, c'est ça. C'est-à-dire faire des chansons dont je présume que la musique a une grande valeur aussi, le timbre de voix, la mélodie, aussi modeste soit-elle, et puis le sens qui est un cadeau offert en plus, voilà, si vous voulez. C'est presque un goodies, quoi, le sens dans une chanson. C'est un truc qu'on peut acheter au merch après le concert. Mais ça, c'est une façon d'envisager les choses. Il y a d'autres façons où le texte est premier, très important, il est mis au premier plan, jusqu'à la techniquement dans le mixage, hein, et la musique est là pour éventuellement au mieux ne pas déranger, vous voyez. Alors ça, ce sont les deux polarités radicales. Il y a tout un monde entre les deux, bien sûr, hein. Il y a des choses, tout n'est pas aussi noir et blanc, mais enfin, c'est vrai que en aimant les chansons anglaises, je me suis rendu compte que c'était pas très grave de pas comprendre complètement le sens d'une chanson en français, quoi. Combien de fois on a dansé sur Marcia Baila sans savoir ce qui nous était raconté. Puis le moment où on découvre ce qui nous est raconté, on est encore plus vous voyez, ému et bouleversé, quoi. Donc voilà, c'est ma façon de voir, en tout cas. C'en est une parmi d'autres.
Hein. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des arrangements sur cet album? Comment vous avez travaillé avec votre acolyte de toujours, Thibaut Frisoni?
Oui, Thibaut Frisoni et moi, nous avons une grande amitié et expérience de travail ensemble. Donc chacun avec ses compétences. Ça concerne la production du disque dans son ensemble, hein, c'est pas l'arrangement, c'est... Il y a une époque, oui, c'est vrai qu'il y avait une pianiste ou un pianiste qui écrivait la musique d'une chanson pour Piaf ou pour je ne sais qui, hein, et puis après elle allait, ou Gréco, vous voyez, puis elle allait être mise dans les mains d'un arrangeur qui allait distribuer cette musique pour un batteur, un contrebassiste, un pianiste, des vents, des cuivres, des cordes, etc. Voilà, il y avait vraiment un travail d'arrangeur spécifique, quoi. Aujourd'hui, avec les moyens techniques qui nous sont offerts et le genre de musique qu'on fait, c'est un mouvement qui est un peu commun, celui de produire et d'arranger. Donc, c'est-à-dire qu'avant, pour avoir des cordes, il fallait avoir 12 musiciens dans la pièce. Maintenant, on peut se faire une idée assez rapidement grâce à des techniques numériques qui permettent assez vite de faire des cordes et se rendre compte de ce que ça donne. Donc ça se fait dans la continuité de l'enregistrement de la voix, de l'enregistrement de ce qu'on appelle l'étape de maquette d'un album. Vous savez tout ça, hein, parce que vous avez reçu, peut-être que vous êtes vous-même musicienne, j'ignore, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça veut dire avoir sur place un certain nombre d'instruments, être en mesure de jouer. Alors Thibaut, lui, est également pianiste, claviériste, donc il a une aisance sur ces instruments que j'ai pas. Il a aussi une patience qui fait qu'il peut rentrer dans le moteur électronique des synthés, etc. En n'ayant pas l'impression comme moi d'entrer dans une jungle tout nu en me griffant de partout. Et puis bon, moi, je suis quelqu'un d'assez impatient en studio. J'aime beaucoup travailler seul aussi. Je peux passer des journées et des heures tout seul dans le studio. À un moment donné, j'appelle Thibaut qui est dans les pièces à côté. Je lui dis, voilà ce que j'ai fait. Tu veux pas améliorer ceci et cela? Et puis, il part avec son petit colis dans sa propre pièce. Et puis, on fait des allers-retours comme ça. C'est comme ça qu'on travaille.
Comment il vous est venu le mot « watt » ?
C'est mon manager et ami Chet qui m'a envoyé ce mot par SMS alors qu'on s'échangeait depuis quelques jours des idées de titres d'albums. Je dois avoir une liste ici, hein, Alors elle doit être
on veut les coulisses, hein.
Bah écoutez, d'habitude je trouve un nom d'album assez rapidement, mais là ça traînait un peu, j'arrivais pas trop à trouver. Donc j'avais deux trois copains avec lesquels j'ai lancé le débat quoi. Donc je recevais plein de propositions sur mon téléphone, des choses. Alors, évidemment, tout à coup ça se met à ne plus être sérieux du tout. Puis il y a des heures entières où on raconte des bêtises, on imagine les trucs les plus anti-groove possibles. Vraiment pour mettre fin à une carrière, quoi. Et puis il y a ce mot Watt qui est arrivé tout à coup, qui m'a semblé être plein de qualités. D'abord, pour ce qu'il est rétif à une signification immédiate, ça me plaît, parce qu'il est beau, parce qu'il y a une lettre rare dans la langue française qui est le W qui se présente, parce que graphiquement il est intéressant pour un graphiste, parce que un titre d'album c'est pas exactement comme le nom qu'on donne à un enfant, hein, c'est pas tout à fait pareil, on peut mal le choisir, c'est moins grave de mal le choisir, c'est plus un nom comme on donnerait à un chien, vous voyez. Pour moi c'est ça, et on donne un nom à un chien, pourquoi? Bah, pour qu'il se différencie lui-même des autres, quoi. Parce que quand on appelle, quand on siffle, s'il y a trois chiens qui arrivent, vous voyez, c'est pas cool. Donc là, moi, c'est pour ça. C'est où, si vous voulez, l'image d'une poignée pour une valise, pour un paquet, il faut une poignée. Le prendre par un. Vous voyez, comment vous auriez dit? Et le nouvel album de Bertrand Belin qui n'a pas de nom. Ça a été embêtant. Alors, je vais trouver un nom. Pour un côté pratique, et puis comme il faut un nom pour un côté pratique, y compris même pour le répertorier dans les milliards d'albums qui sortent toutes les semaines, eh bien il faut qu'il ait un nom, sinon il n'existe pas, tout simplement, administrativement, vous voyez, si on en est là. Mais tant qu'à faire, il y a le côté pratique, et puis pourquoi pas se faire plaisir en choisissant un nom qui veut dire quelque chose pour soi. Donc ce qui veut dire pour moi, c'est Watt, fait référence au Watt de la chaîne IFI quand on était petit, 100 watts, 200 watts. Il y a aussi, on dirait un petit aboiement de chien. Watt, Watt.
Ah, vous le faites bien.
Même, je vous remercie, mais je vous dis que ma voix a changé depuis tout à l'heure, vous ne voulez pas me croire.
Eh bien, on écoute Watt.
Debout dans la lumière, j'articule dans les entrailles de l'air, prière, calcul, salade, j'articule en commun des mortels. Je m'attriste du départ des grues pour l'autre hémisphère. J'ai travaillé la nuit, la pierre, travaillé le fer. J'enterre mes morts, j'articule. What?
What?
What? What?
What?
Colorado, le Congo, l'Escaut, chapeau pour le baptême, grand fleuve, nom d'oiseau, astre, désastre, j'articule.
What? What?
What?
What?
What?
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Bertrand Belin. Comment est-ce que vos proches ont l'habitude de vous décrire ?
Bah, j'en sais rien, ça.
Vous savez pas ce qu'ils disent de vous ?
Ben non, je sais pas. Bah, comment je pourrais le savoir ?
Bah, je sais pas, dans des discussions, des qualités qu'on vous aurait...
Oh, mais chacun a son opinion sur ma personne. Ça doit dépendre des gens, bien sûr. Moi, j'ai des rapports, je suis entouré de gens que j'aime, j'ai des amitiés assez nombreuses, dans le monde artistique, mais aussi dans un autre, dans ma vie privée, quoi. Mais avec chacun, un rapport particulier s'établit. Ouais. Moi-même, je ne suis pas le même avec chacun ou chacune, pour des raisons diverses, parce qu'il faut accorder nos violons. Voyez. Donc, si quelqu'un a parlé de moi, je pense que si on demande à un tel ou à un autre, ou à une telle, bon, il aura des choses différentes sûrement à dire quant à mes défauts et mes qualités. Pourquoi vous savez, vous ? Vous avez demandé à des copains ?
Non, mais il faudrait peut-être que je le fasse.
Ouais, ils font ça à la télé.
Oui, c'est vrai.
Des fois, ils font ça. Eh bien, nous avons retrouvé votre copain d'enfance.
Et il est là.
Et il n'a pas que des choses agréables à dire sur vous.
Je vous ai demandé un album qui représente pour vous le bonheur et vous m'avez parlé d'Aretha Franklin. Donc, on écoute le titre « Right Now ».
Yeah.
Right now, tell me if you want me. Right now, you make me think you like it when we kiss, but still you never say so. So if you're only playing, let's stop, 'cause I'm nearly blowing my top. And if you care, say you do, but if you don't, baby, tell me right now. You got a smile I love, and you're the style I love, and your caress is all my heart is dreaming of. But if you keep stalling, by the time we click, I'll be turning gray and you'll be walking with a stick. So if we're gonna make it, let's start, 'cause you're overworking my heart. I've confessed I'm with you, and if you with me, you better tell me right now.
Yeah, yeah.
You got the smile I love, and God knows you're the style I love, and your caress is all my heart is dreaming of. But if you keep stalling, by the time we click, I'll be turning gray, and you'll be walking with a stick. So if we're gonna make it, we'd better start, 'cause I'm overworking my heart. You're the guy that I love, that I can't deny, and all you ever give me is just an alibi. And baby, I've decided now it's do or die. So tell me if you love me.
Oh yeah. Vous avez fait danser tout le studio là, Bertrand Belin.
Swingé, ouais, c'est quand même, c'est vrai que cette chanson, elle est gorgée d'une énergie positive, même si elle met en scène une personne qui veut savoir si elle est aimée ou pas, hein, à tout prix. Mais enfin, il y a quand même un aspect merveilleux quand même dans ce swing si électrisant.
Vous dansez beaucoup aussi sur scène. C'est venu petit à petit. Et comment c'est arrivé la danse?
Je me suis toujours un peu remué quand même, mais depuis quelques années, les chansons que j'écris sont un peu moins tournées, sont un peu moins centrales du point de vue de l'usage de la guitare, et ça m'a libéré un peu le corps aussi de plus avoir la guitare. Parce que quand on a une guitare en mandoulière et commence à faire des mouvements, on se retrouve à emprunter des routes qui ont déjà été empruntées des milliers de fois. C'est normal, c'est quoi, parce qu'on a un ustensile dans les mains qui pèse quelques kilos, qui est un peu encombrant, quoi. Donc en lâchant la guitare, peut-être que ça me fait voir un peu les choses autrement, mais enfin, non, mais c'est aussi parce que j'aime ça chez les autres, quoi. J'aime voir ça chez les autres. Alors, j'aime voir ça chez les autres. C'est-à-dire que les grandes stars, vous voyez, Beyoncé, c'est un peu extrême, parce que c'est des danseuses extraordinaires avec des chorégraphes, des chorégraphies. Mais c'est vrai que je ne boude pas mon plaisir devant ce genre de show, quoi, où ça secoue un peu, quoi. Alors, bah, évidemment, on est loin de tout ça, mais ce que je veux dire par là,
pas
c'est
tant,
que
hein.
je comprends en tout cas que la silhouette et l'expression de la silhouette, quand on se donne à voir sur scène, puisse ressembler à autre chose qu'à un putain d'homme politique sur une estrade de, vous voyez, ou d'ailleurs le mot est mal choisi, le qualificatif est mal choisi, mais un homme politique ou quelqu'un qui vient vendre sa cam, quoi, voilà, qui se contenterait de lever les bras au ciel de temps en temps.
Quand vous êtes sur scène, j'ai l'impression que vous dessinez des formes, un peu vous qui avez quelque chose de particulier avec la matière. J'ai l'impression que vous êtes comme un sculpteur. Est-ce que vous voyez des images?
Ben moi, je vois, vous voyez, le petit bonhomme en bois, le petit pantin en bois qui sert aux dessinatrices et aux dessinateurs pour qu'on met sur les bureaux, vous voyez, un petit pantin articulé en bois qu'on voit chez les marchands, des fois, c'est assez joli, vous voyez ce que c'est,
oui, hein. Oui.
Ben moi, je vois ça comme ça, en fait. Je vois des postures, une silhouette, un corps réduit à ces éléments fondamentaux, quoi, hein, la boule pour faire la tête, le rectangle pour faire le corps, les bâtons pour faire les bras et jambes, comme un dessin d'enfant, en fait. Voilà, c'est ça que je pense quand je danse.
On va écouter maintenant votre coup de pouce à un groupe ou un collectif qui s'appelle Modestine.
Un groupe.
Un groupe. Sombre Cécile.
Qui roule plus, le téléphone qui marche plus, les légumes qui poussent plus, mon Jérôme qui bande plus, y'a quelque chose de pourri dans ce patelin des villes, payons un peu à l'œil, la sombre Cécile. Le ciel est sombre Cécile, comment peut-on être si pâle et puis si sombre? Sombre Cécile, et puis si grand, passer comme ça, par-dessus nous, comme si la grêle, le sirop pour la canicule, le jour des morts, ou un camion 14-18, le choléra.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Chacun son tempo avec Bertrand Belin. L'émission touche à sa fin. Je vais remercier la régie, Armand Gury, Bruno Mandefouya, Clara Smal de chez Vagram, Chet Samoa. Et Bertrand Belin va nous offrir un titre live avec sa guitare qu'il a amené pour nous. Thank you.
perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. Peur de le perdre au bas des falaises. Dieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut, c'est l'ondé, il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. Peur de le perdre au bas des falaises. Adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.